bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midrèche et Touda Manitou et avec le Rav Ethan Fison pour continuer cette étude. Cette fois, c'est par Zoom, donc on vous voit, on vous entend. Vous pouvez ouvrir vos micros, poser des questions en direct au Rav Fison. Et le thème ce soir, la réalisation des prophéties, la construction du pays avec Rav Fison. C'est parti, bonne étude à tous. C'est les refouach les mâches et le kol chola mecha bet Israël. Et également, Kere Myriam bat Yoela.
Yafemod. Et pour l'Eilou Nishmat aussi de mon grand-père, que c'était sa Iloula aujourd'hui, Zev Ben Paltiel.
Amen.
Voilà. Alors les amis, on revient dans notre étude de la réalisation de la prophétie. Et aujourd'hui, donc voilà, huitième épisode, on arrive dans la notion qui s'appelle Binyan Haaretz, la construction du pays. Eh oui, on a parlé de l'agriculture, on a parlé du moment où la terre d'Israël redonnait ses fruits, mais il y a une autre dimension de réalisation de la prophétie, c'est que nous allons reconstruire eh bien, un pays qui a été pendant 2000 ans le théâtre de la désolation la plus profonde. Et lorsqu'on avait étudié l'épisode sur la résurrection agricole, eh bien, on avait mis en avant les témoignages des différents non-juifs qui sont venus en Eretz Israël pendant 2000 ans et qui ont tous témoigné, d'ailleurs non-juifs et juifs, qui ont tous témoigné de la désolation agricole. Mais ce n'était pas seulement une désolation agricole, c'était aussi une désolation au niveau de la construction des infrastructures. Les villes étaient délabrées si elles existaient, Bichlal. Et il y avait énormément d'endroits qui étaient vides, vides de toute vie. Et donc, quand on parle de réalisation de la prophétie, eh bien, ça parle pas seulement de l'agriculture, mais également de la réalisation concrète de la construction du pays. Alors, ben, je propose, sans plus attendre, de rentrer dans nos mekorot, dans nos prophéties, à proprement parler. Alors, c'est parti, hop là. Voilà, c'est parti. Et donc, nous commençons avec le livre de Yechezkel, Yechezkel Hanavi, qui va être le premier qui va nous accompagner aujourd'hui. Et on va voir que dans la prophétie de Yechezkel, les choses sont assez évidentes. Alors regardons, nous sommes dans le chapitre 36 du livre de Yechezkel. Pour vous rappeler, les chapitres 36, 37 sont les névouotes de résurrection. Dans le chapitre 37, eh bien, c'est la fameuse névoa de Chazon Ha'atzamot Ha'yeveshot, lorsque le prophète Yechezkel va voir la résurrection des morts, qui fait référence évidemment à la résurrection du peuple d'Israël. Alors, j'ai commencé avec le verset numéro 8, bien que c'est un verset qu'on a déjà étudié, c'est pour nous remettre dans le bain. À savoir, Ve'atem, Arei Israël, Anperem, Titnu, Periechem, Tisou, Leami Israël, Kekirvo Lavo. C'est-à-dire, ce verset-là faisait référence à la résurrection agricole, et donc c'est pour nous rattacher à ce qu'on avait déjà étudié. Kineni Alechem, Ufaniti Alechem, Ve'nevadetem, Ve'nizratem. C'est-à-dire que nous allons vraiment être, comment dire, plantés dans la terre d'Israël comme les plantes elles-mêmes. Ve'irbeti alechem adam, ki kol bet Israël kulo, ve'noshevu e'arim, ve'echeravot tibanena. C'est-à-dire que non seulement on va revenir, mais les villes seront repeuplées et les ruines seront reconstruites. Et évidemment, quand on fait référence à cela, eh bien, nous connaissons très bien notre réalité au quotidien en Israël. Il est évident que cette prophétie s'est réalisée. S'est réalisée, j'allais dire, au centuple. Puisque, et je sais que vous n'aimez pas trop les chiffres, mais juste qu'on comprenne de quoi on parle, en 1850, il n'y a que 9 villes qui comptent des Juifs à l'intérieur en Israël. En l'an 2000, on est à 67 villes juives en Israël. Donc, on voit véritablement « Ve'irbeti alechem adam, kol bet Israël kulo, ve'noshevu ha'arim » Ve'achoravot tibanena. Donc nous sommes véritablement là-dedans. Continue le prophète en disant Ve'irbeti alechem adam ou behema, ve'rabu parou, ve'oshavti etrem ke kadmonechem, ve'tivoti mi rachotechem. Et donc, vidatem ki ani Hashem. Nous dit ici le prophète, non seulement je vous ramènerai et vous allez reconstruire les villes d'Israël, mais ça sera encore plus qu'avant, comme on a dit. Mais vous, en tant que population, eh bien, vous serez également beaucoup plus nombreux qu'avant. C'est-à-dire que je vais vous ramener comme à l'époque, c'est-à-dire au moment où il y avait une royauté d'Israël forte avec, eh bien, avec des villes et des juifs un peu partout. Mais non seulement ça, ça va revenir, mais ça va revenir de manière beaucoup plus grande. Et oui, rappelez-vous deux secondes ce qui se passe au début du XXe siècle et au début du XXIe siècle en 100 ans. Eh bien, si on prend par exemple Jérusalem, pour dire que c'est une ville qui nous intéresse un tout petit peu, eh bien, en 100 ans, la population juive de Jérusalem est passée de, enfin, pas que juive, la population générale de Jérusalem est passée de 48 000 personnes en 1900, dans les années 1900, à près de 880 000 personnes au début du XXIe siècle. Donc, il est évident que là, la réalisation est évidente dans la bouche du prophète Ézéchiel, Yéhézkel. Ve'olachti alechem adam et ami Israël, ve'rashucha ve'ayita lahem le'nachala, ve'lo tosif ov le'shakelam. Et là, nous donne le prophète Yéhézkel une promesse fantastique, que quand on va revenir, c'est-à-dire maintenant, eh bien, ces villes ne seront plus détruites. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche pour toutes les villes d'Israël? Eh bien, on sait très bien que non. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des fois des villes qui disparaissent, mais le prophète nous parle de manière générale. De manière générale, on ne verra plus de khurban, de destruction totale du pays, comme, eh bien, on l'a vu à l'époque de la destruction du premier et du deuxième temple. Malheureusement, ça ne veut pas dire que certaines villes, comme dans le Gush Katif, eh bien, ne disparaîtront pas, mais ne nous inquiétons pas, elles aussi, elles reviendront. Tibane, Vetikonen, Be'ezrat Hashem. La reine est mort le Bet Israël, nous dit Yechezkel Anavi. Donc, dit au peuple juif à la maison d'Israël, Ko Amar Hashem, Ko Amar Adonai Elohim, Lo le ma'anchem ani oseh, בית ישראל, כי אם לשם קודשי, אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שמה. Et là, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut absolument un tout petit peu développer. Pourquoi est-ce qu'il faut un tout petit peu développer ce verset-là? Eh bien, parce que on doit se poser la question, pour qui Akadosh Baruch Hu envoie la Géoula? Est-ce que c'est pour nous? Eh bien, la réponse est non, ce n'est pas pour nous. C'est pour lui. Il nous envoie la Géoula, mais pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit trois fois par jour dans la Hamida. Lorsqu'on dit Ou Mevi Goel Livene Bene Israël, Livene Bene, etc. Le Ma'an Shemo Be'ava. C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous, c'est le Ma'an Shemo. C'est pour son nom à lui qui a été profané lorsque le peuple juif était chez les nations. De là, nous apprenons une notion fondamentale. Mes amis, le plus grand Chilul Hashem qui puisse exister, c'est l'exil. Lorsque Am Israël est en exil, le prophète Yéhézkel appelle ça le Ma'an Shemi Asher Chilaltem. Chilul Hashem, lorsque Am Israël est en exil, il n'y a pas de plus grand Chilul Hashem que celui-là. Donc, j'en déduis, peut-être que j'ai pas le droit de déduire, mais j'aime bien faire des déductions, j'en déduis donc qu'il n'y a pas de plus grand kiddush Hashem que le sionisme. Qu'il ait une kippa sur la tête ou pas. C'est-à-dire que lorsque Am Israël revient sur sa terre, Zeleman Shemo, Be'ava. Et c'est exactement ce que nous disons dans le Hallel. Dans le Hallel, nous citons les versets de Tehilim. Alors, je ne les ai pas mis dans la feuille de source parce que vous le connaissez par cœur, mais vous connaissez ce Tehilim qui nous dit « Lo lanu Hashem, lo lanu, ki leshimcha ten kavod » C'est-à-dire que ce n'est pas pour nous tout ce qui est en train de se passer. Ça nous profite, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour les Kadesh et Shemo Agadol. Hop là, je reviens dans le texte. Voilà. Donc la reine est morte le Bet Israël, Ko Amar Hashem Elohim, Lo Lemanchem Ani Oseh Bet Israël, Ki Im Leshem Kodshi, Asher Chilaltem Bagoyim, Asher Batem Sham, Vekidashti Et Shemi Agadol, Amechulal Bagoyim, Asher Chilaltem Betocham, Veyadu Agoyim, Ki Ani Hashem, Neum Hashem Elohim. Nous sommes, nous devenons le Kiddush Hashem aux yeux du monde lorsque nous revenons sur notre terre. Tant que nous sommes en exil, nous ne pouvons pas brandir, si on veut, l'étendard, le drapeau d'Akadosh Baruch Hu. Et on le voit totalement, je pense que je n'ai pas besoin véritablement de l'expliquer, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans notre étude ce soir, que lorsque nous sommes chez nous et que nous reconstruisons notre pays, eh bien les goyims sont intéressés à venir, eh bien comment dire, être en contact avec nous. Toute ressemblance avec des accords de paix qui seraient signés ces derniers temps, ou alors avec des ambassades d'autres pays qui viendraient et se placeraient à Jérusalem, serait évidemment purement fortuit et involontaire, vous le savez très bien. Et donc on arrive au verset Kafdalet, Velakarti etrem minagoyim, Vekibatsti etrem mikol haaratzot, ça on connaît, Dieu nous ramène en Israël, Veveti etrem el admatrem, Vezarakti alechem maim teorim utehartem, Mikol tumotechem, Umikol gilulechem atayer etrem. Eh bien, Venatati lachem lef chadash, je termine juste ce verset là, Veruach chadasha eten bekirbechem, ועשירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, וזאת רוחי, אופה, ג'יית את רובי, סליחה, אופלה, וזאת רוחי אתן בקרבכם, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, משפטיי תשמרו, ועשיתם. En d'autres termes, nous dit Yechezkel, רבותיי, à partir de quand doit-on commencer, eh bien, à, comment dire, à faire la Torah et les mitzvot. À partir de quand y a-t-il cette résurrection au niveau de la Rouhaniyout? Est-ce que c'est avant de revenir en Israël ou est-ce que c'est après le retour en Israël? Eh bien, dans les propos de Yechezkel HaNavi, c'est évident. Ça commence après. D'abord, on revient, c'est-à-dire concrètement, d'abord on fait l'Aliyah et ensuite, on vient au cours de la Midrashet Manitou. C'est comme ça que ça marche. Ah, est-ce que ça veut dire que si on est encore à Paris ou ailleurs, on n'a pas le droit de s'attacher? Non, on a le droit. Pourquoi? Parce que le prophète ici parle au clan Israël. Et effectivement, on voit que le mouvement de Chazara Bitshuva, dans lequel nous vivons incontestablement aujourd'hui, eh bien, a commencé non seulement après notre retour en Israël, mais particulièrement après la guerre des six jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Amisraël est rentré à Jérusalem, tout d'un coup, on retrouve une recrudescence de la volonté d'étudier et de se rattacher au judaïsme. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient religieux, mais ça commence à ce moment-là. Et donc, une fois que le processus est en place, eh bien, Yechezkel va aller encore plus loin en disant, eh bien, Veishavtem ba'aretz, asher natati la'avotechem, va'hayitem li le'am, va'anochi eyelachem le'elohim. והושעתי אתכם מכל תומותיכם, וקראתי את הדגה אל הדגן, והרביתי אותו, ולא אתן עליכם רעב. Ça, on a déjà expliqué cela, on l'avait déjà cité ce verset-là, lorsqu'on a vu l'abondance agricole, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Israël. Et donc, termine le chapitre 36 en disant, dans le verset 33, כה אמר השם אלוהים, ביום תאורי אתכם מכל עוונותיכם, והושבתי את הערים ונבנו החרבות והארץ הנשמה ותאבד תחת אשר הייתה שממה. C'est-à-dire que ici le prophète Yechezkel fait un jeu de mots. Il dit il y aura maintenant une neshama dans la terre d'Israël, là où il y avait shemama, là où il y avait un désert, leine kol over ve'ameru, mise ve'ameru, mise ameru, agoyim. הארץ הלזו הנשמה הייתה כגן עדן, והערים החרבות והנשמות הנערסות בצורות ישבו. וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם, כי אני השם בניתי הנערסות, נתתי הנשמה, אני השם דיברתי ועשיתי. טוב רבותיי, איסי לפרול דרך יחזקאל הנביא, סון... j'allais dire limpide, limpide. Yechezkel nous dit, viendra un temps où ça y est, on va tout simplement, eh bien, non seulement rentrer, mais reconstruire un pays qui aura, comme on dit dans un français un petit peu châtié, qui aura de la gueule. C'est-à-dire que ça ne sera pas simplement un pays avec une carte postale où il y aura un dromadaire sur fond de dunes de sable, mais ça sera le pays de la high-tech, le pays où il y aura des constructions magnifiques, le pays où quand tu arriveras à Jérusalem, tu diras « waouh ». D'ailleurs, j'en veux pour preuve, eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a constamment des travaux à Jérusalem. Hein, je vois par les têtes des gens que vous acquiescez, il y a des travaux toujours à Jérusalem. Mais oui, mais ça, il ne faut pas se plaindre. On demande ça tous les jours, trois fois par jour. Tous les jours, trois fois par jour, on dit « Baruch Ata Hashem, Bonnei Yerushalayim ». Et après, tu te plains qu'il y a le marteau-piqueur qui est tout le temps dans les rues, partout. Mais en même temps, tu l'as demandé depuis 2000 ans. Bah, il y a un moment donné, il t'a dit « Bon, bah tiens ». Et là, tu n'es pas content. C'est vraiment les Juifs, ça. C'est fantastique. Mais Kitsour, c'est exactement de cela qu'on parle. Et Yechezkel Hanavi nous dit « Le retour en Israël doit s'accompagner d'une résurrection aussi de l'aspect de la terre d'Israël, un aspect d'un pays qui a eh bien, tout à fait retrouvé, comment dire, sa grandeur, j'ai envie de dire, et son statut de pays à la pointe des autres pays. Alors, évidemment, Yechezkel Hanavi n'est pas le seul, bien sûr, à parler de cela. Quand on parle de la résurrection et de la reconstruction du pays d'Israël, eh bien, il y a d'autres prophètes qui en ont parlé, et vous pouvez le voir ici, voilà, je le remets au bon endroit. Amos a également parlé. Amos, dans le chapitre tête, dans le 9e chapitre de Amos, nous dit le prophète au verset Yud Gimel, Ine Yamim Baim. Donc Amos, c'est avant Yechezkel. Moi non plus, je ne sais pas. Ça, c'est l'avantage du zoom, mais c'est aussi le désavantage du zoom.
C'est bon, on reprend.
Tout va bien. Bekitzur, donc Amos parle avant Yechezkel. C'est vrai que Yechezkel Hanavi est plus connu que Amos, mais Amos est antérieur à Yechezkel. Et nous dit Amos, Ine yamim baim neum Hashem, venigash choresh bakotzer, vedorech anavim bemoshech azara. C'est-à-dire qu'on va recommencer à travailler la terre d'Israël. C'est pas seulement que la terre d'Israël va redonner ses fruits, on va concrètement exploiter la terre d'Israël. L'agriculture, pas seulement la shefa que Dieu nous donne, mais l'homme va retravailler la terre. Ve'itifu e'arim asis, ve'chol ha'gevaot titmogagna, ve'shavti et shevut ami Israël, ubanu arim, neshamot, ve'yashavu. C'est quoi? Ani arim neshamot, des arim noshmot, des villes pleines de vie. Vous savez, dans les westerns, on a toujours comme ça, quand le desperados, il arrive dans la ville, eh bien, il y a tout le monde qui se cache dans le saloon ou dans les autres maisons, et t'as un coup de vent à ce moment-là qui passe sur la rue et qui soulève la poussière, et tu te dis, c'est une ville fantôme. Bah, c'était plus ou moins le cas de toutes les villes d'Israël durant 2000 ans. Et là, on te dit, non, Banu ou Banu Harim Neshamot, pleine de vie. Venato Keramim Veshatu et Yeinam. C'est-à-dire, non seulement on va construire les villes, mais on va être bien dans nos villes. Ve'asu ganot ve'achlu et periyem unta'atim al admatam ve'lo yinateshu od me'al admatam asher natati lahem amar Hashem Elohecha. Donc nous dit Amos Hanavi que eh bien non seulement on va revenir très bien, non seulement la terre d'Israël va redonner ses fruits très bien, mais en plus de cela, eh bien nous allons construire nos villes, y planter nos propres vignes. On ne va pas se contenter de ce que la terre d'Israël nous donne. On va nous aussi planter et travailler. Et on va profiter de nos villes. On va être pépère, comme on dit en bon marseillais, dans nos villes. Et évidemment, je pense que là encore, eh bien, je n'ai pas besoin de vous donner plus d'exemples que cela. Nous le voyons au quotidien. Mamash kacha. Mamash au quotidien. Faut bien comprendre que si au début du 20e siècle, en 1909, Tel Aviv compte 63 habitants. Ce sont les 63 hommes qui constituent les 63 familles qui ont décidé de créer Tel Aviv. Eh bien, quand on est 100 ans plus tard, c'est 420 000 habitants à Tel Aviv. Il est évident qu'on est en train largement de vivre cette réalité et je pense que tout le monde en est largement, mais alors largement, conscient. Alors, est-ce qu'il suffit de construire simplement des maisons, d'y planter des vignes, ou alors il s'agit également de construire ce que j'ai appelé tout à l'heure comme étant les infrastructures du pays? Parce que c'est bien beau, mais il y a quelques années de cela, eh bien, j'ai fait un tioul avec un organisme de France. Vous savez, les tioulim zatsal, c'était une époque où il y avait des gens qui montaient dans des boîtes de fer avec des ailes et qui arrivaient par le ciel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça s'appelait des avions. C'était dans l'ancien temps, dans le monde de l'avant-corona. Eh bien, j'ai fait un tioul avec un organisme de France et le responsable du groupe, qui travaillait au consistoire depuis des années et des années et des années, n'était pas revenu en Israël depuis 40 ans. 40 ans ! Et je te parle, le tioul, il devait être en 2010 ou un truc comme ça. Donc, c'est-à-dire que depuis les années 70, il avait pas mis les pieds en Israël. Et donc, pas non plus à Jérusalem. Il a été choqué. Il a été choqué. Pour lui, Jérusalem, c'était comme il l'avait laissé il y a 40 ans, c'est-à-dire une ville plus ou moins qui était restée à l'époque d'Abraham Avinu. Plus ou moins. Et là, il arrive devant une ville complètement modernisée, devant le tramway. C'était invraisemblable pour lui. Et donc, il s'agit ici de construire également les chemins. Ça ne suffit pas de construire les maisons, il faut construire également les infrastructures, ce qu'on appelle dans le langage du Tanakh, Aderachim. Et c'est pour ça qu'avant la construction, je voudrais vous rappeler une autre prophétie qui s'est réalisée, mais qui s'est réalisée pour notre plus grand malheur, les prophéties de destruction. Et oui, nous dit la Megillat Eicha, le prophète Jérémie nous dit, dans le chapitre 3, « Ani agever ra oni » בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב, סליחה, יהפוך ידו כל היום. בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקוף, זאת אומרת, דסטרוקציה טוטל, וראש ותלאה. במחשקים הושיבני כמתי עולם. Entre parenthèses, le Talmud de Babylone, dans le traité de Sanhedrin, dira sur ce verset, Bemechashakim Oshivani Kemete Olam, tu m'as mis dans l'obscurité, t'as la mort dans ce monde, nous dit le Talmud de Babylone, Ze Talmuda Shel Bavel. C'est-à-dire que pour les Chachamim du Talmud de Babylone, eh bien le Talmud de Babylone, c'est l'obscurité et les morts vivants. Et ils savaient très bien de quoi ils parlaient, ces Chachamim, c'est d'eux-mêmes qu'ils parlent. Gadar Baadi Velo Etse Ichbid Nechash Tisira. גם כי אזעק והשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה. Et c'est ce verset qui nous intéresse, je vais amener les premiers pour qu'on se mette dans l'ambiance, mais le verset Chet et Tet sont les versets qui nous intéressent pour comprendre quelle a été la réalisation de cette prophétie, mais la réalisation de celle qui vient plus tard. Puisque גם כי אזעק והשבע סתם תפילתי, גדר דרכי בגזית נתיבותי איבה. Les chemins de Jérusalem sont détruits. Et effectivement, on a pu voir que c'est ce qui s'est passé. Nachon, c'est ce qui s'est passé, mais il y a une névoie de Nechama, une névoie de réconfort qui arrive dans les paroles de Yishayahu Hanavi. Alors c'est incroyable parce que Yishayahu, il est antérieur à Yirmiyahu. C'est-à-dire que Yishayahu va donner le pansement avant la Maka, Magdim Troufa la Maka. C'est-à-dire qu'il amène la prophétie de réconfort avant la prophétie de destruction. Et donc nous dit Ishayahu Hanavi au chapitre 62, nous dit Ishayahu Hanavi la chose suivante. Ivru, ivru, bashéarim, panu derech ha'am, solu, solu, hammesila, sakelu, me'even. Oui, vous avez bien entendu. Le prophète Ishayahu nous dit, il est temps maintenant de l'islol et ta messila. Alors, dans les bouches, dans la bouche de Ishayahu, c'est de faire des chemins. Pas de problème. Mais, en mala asot, on ne peut pas, nous, eh bien, ne pas penser que ça va aussi faire référence à autre chose. D'abord, en termes de simple chemin, est-ce que la prophétie de Ishayahu s'est réalisée? Ine Hashem Ishmial Ketzeharet Imru Levatzion Ine Yish'ech Ba Ine Secharo Ito Upeulato Lefanav Vekarou Lahem Amkadosh Geule Hashem Velach Yikare Derusha Ir Lo Ne'ezava. Nous dit Ishayahu que non seulement on va créer des chemins, mais ça permettra à la ville, on parle ici de Jérusalem, sera rempli et ne sera pas annulé. Les amis, quand on parle de construction de chemins, de routes, là encore, on m'a dit de ne pas donner trop de chiffres, mais quand même un, histoire qu'on sache de quoi on parle. Les amis, on est en 2020. En 60 ans, on est passé de l'année 1960 à 6572 kilomètres de route goudronnée, c'est-à-dire de route mise en place comme il faut. En 2020, nous sommes à 19 224 kilomètres de route mise en place comme il faut. Donc, j'espère que vous arrivez à comprendre deux secondes de quoi on parle. On a multiplié par 3 le nombre de routes en Israël. Mamash panu derech ha'am solu solu ha'mesila. Mamash kacha. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, quand on parle de Messila en hébreu moderne, pour tous ceux qui ont été un tout petit peu à l'Ulpan, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Messila, ça fait référence également à Messilat Barzel, c'est-à-dire le train. Le train. Dans Rabotai, le train, de quoi on parle? Le train, c'est tellement important, c'est tellement quelque chose. Est-ce que le train, c'est tellement quelque chose? Eh bien, la réponse est à 2 millions de %, oui. Mamash, oui. Il faut savoir qu'il y avait un des rabbanim de Brisk, le Brisk Rouv, mais pas le Brisk Rouv qu'on nous on connaît, un des rabbanim qui était toujours à Brisk, qui était un des grands dirigeants de Brisk, qui s'appelait, attends, je vais te retrouver ça tout de suite. Je ne vais pas te le retrouver, c'est pas grave. Un jour, il était en train d'étudier la Torah et il a entendu passer le train. Mais c'était dans les années où c'était tout nouveau, le train. Je te parle de ça en Russie. Hein. Il a entendu passer le train. Il a dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? C'est quoi le bruit? On a dit, c'est le train, c'est un nouveau moyen de transport, machin. Il dit, oh! S'il y a ce moyen de transport, en safek, que sa finalité, c'est de nous ramener en Eretz Israël. Et aujourd'hui, Rakev et Israël, Baruch Hashem. Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Évidemment que Baruch Hashem. Et on est passé, et faut qu'on comprenne, on est passé avant le corona, évidemment, parce que bon, le corona, ça change un peu la donne, mais on est passé, et là encore, en l'an 2000, il y avait 200 voyageurs par jour dans le train. C'était très, très peu utilisé, le train en Israël. Parce qu'il n'y avait pratiquement pas de débouchés, il n'y avait qu'une seule ligne et demie, et c'était long, et c'était pas... Les amis, en 2017, on est passé à près de, 518. C'est beaucoup plus. Et je pense que, c'est très, très, très important par jour de comprendre qu'on est en train de se rapprocher à des infrastructures qui sont dignes d'un véritable start-up nation. On n'est plus le pays avec le chameau en carte postale. Donc, non seulement on construit des maisons, non seulement on construit des pans agricoles qui ne viennent pas seulement de la terre, mais que nous construisons également des chemins. Mais est-ce que ça s'arrête là? Eh bien sûr que non. Vous avez compris que bien sûr que non. Sinon, j'allais pas demander. Mais quand on parle, Rabotaï, de la construction des villes d'Israël, Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut qu'on mette un focus sur Yerushalayim. En Malasot. On est obligé de mettre aussi un focus sur Jérusalem. Parce qu'une grande partie des Nevuot, eh bien, se concentre sur Jérusalem. C'est le cas de Zecharia Hanavi. Mais Zecharia Hanavi, lui, il ne va parler pas que de Jérusalem. Regardez ce qu'il nous dit. Dans le chapitre 8, au verset Kaf, nous dit Zecharia Hanavi la chose suivante. Ko amar Hashem Tsevaot. Od asher yavou amim ve yoshevei arim rabot. Ve alechu yoshevei achat el achat lemor. Nelcha aloch lechalot et pene Hashem. U levakesh et Hashem Tsevaot. Elcha gam ani. C'est-à-dire que les goyim disent, on a envie d'aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. U vaou amim rabim ve goyim atsumim. לבקש את השם צבאות בירושלים ולחלות את פני השם. כה אמר השם צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו 10 אנשים מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי למור נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. La construction du pays amène également à une influence énorme au sein du monde non-juif. Comme on l'a dit tout à l'heure, Zekidush Hashem Beinei Ha'amim, mais ça va aussi avoir une influence concrète. Que les goyim viennent s'attacher à Israël pour essayer eh bien, d'apprendre comment on s'attache à Dieu. Alors, c'est évidemment vrai avec ce qu'on voit aujourd'hui, le Rav Cherki qui est à la tête de l'association de Brit Olam pour l'association des Bnei Noach dans le monde, et de plus en plus de Bnei Noach s'attachent à Israël et veulent venir apprendre du peuple juif comment s'attacher à Dieu, mais vous comprenez que cette réalité n'était pas possible lorsque le peuple juif faisait peine à voir. De la même façon, lorsqu'on parle de s'attacher au Am Israël, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Pascal, un grand philosophe. Eh bien, notre ami Blaise, Pascal, avait dit la chose suivante. Si Dieu s'est un jour véritablement dévoilé à l'humain, alors il est évident que nous devons demander au peuple juif la tradition de ce dit dévoilement. C'est-à-dire qui sont ceux qui gardent la capacité de se rattacher à Dieu, Am Israël. Seulement, lorsque Am Israël est en mode, ben, recroquevillé sur lui-même à l'intérieur du Beth Amidrash, que ça fait peur à voir, personne n'a envie de s'attacher au peuple juif. Mais lorsque Am Israël, eh bien, est en train de se reconstruire, de reconstruire son pays, de retrouver une grandeur, eh bien, à ce moment-là, il est évident que c'est ce qui est en train de se passer. Que Asara Goyim, Marzikim Bekanaf Ish Yehudi, les morts, Nelchaim Machem, Kishamanu Elohim Imachem. Alors, cette prophétie ne s'est pas réalisée encore à 100%, mais elle est complètement en passe de se réaliser. On est en train de réaliser cette prophétie. Alors, comme j'ai dit, eh bien, la construction du pays passe également par une construction particulière, la construction de Jérusalem. Là encore, quand on parle de construction de Jérusalem, eh bien, nous devons de commencer par la notion de destruction de Jérusalem. Eh oui, nous dit le prophète Jérémie, Megillat Eicha, chapitre 1. Eicha yashva badan, ay rabatiam, ayeta kealmana. Eh oui, on connaît ce nigoun. Eicha yashva badan, ay rabatiam. Aïta ke almana, rabati ba goyim, sarati ba medinot, aïta lamas. Bachot ivke balaila, vedimata al lechaya, ein la, menachem, mikolo avea. Kol roea, bagduba, hayula le oivim, galta yehuda meoni, umerov avoda, yashva ba goyim. לא מצא מנוח. כל רודפיה היא סיגוע, Ben Ametsarim. Et enfin, nous arrivons à ce verset incroyable. D'Aretz Yon Avelos Mibli Baemoel Kishareh Shomemim Kohaneh Anechen Achim Betulotea Negot Veimarla. Ces versets-là, qui chez les Ashkenazim sont dits comme ça avec ce nigoun très très pesant, eh bien les amis, d'Aretz Yon Avelot Mibli Baemoed. Le Rav Tzvi Yehuda Kouk, lorsqu'il était bloqué dans les Pkakim à l'entrée de Jérusalem, et à l'époque, je te parle dans les années 70, il n'y avait qu'une seule route et c'était une route à deux voies, c'est-à-dire un comme ça, un comme ça. Il n'y avait pas l'entrée de Jérusalem que nous on connaît, qui a déjà trois voies et qu'on va en mettre quatre. Mais qui te sourd ? Ce n'est pas du tout le même délire, hein. Et il y avait pratiquement toujours des embouteillages à l'entrée de Jérusalem. Mais moi, je me rappelle, même quand moi j'ai fait mon alia en 2003, tu savais que la montée de Jérusalem, t'en avais pour 20 minutes. Même quand ça roulait bien, quoi. Bekitsour, Rav Tzvi Yehuda Kouk, lorsqu'il était pris dans les embouteillages de l'entrée de Jérusalem, aya boche misimcha. Il dit, regardez, d'Aretz Yon Avelot, il y a marqué dans la Megillah d'Echa. C'est-à-dire que les chemins qui mènent à Jérusalem sont vides. Et aujourd'hui, tu es dans les embouteillages pour rentrer à Jérusalem. C'est fantastique. C'est pas chou, fantastique. Et c'est exactement ce que va nous enseigner David Ameler, Besefer Tehilim. Alors nous dit David Besefer Tehilim, dans le Tehilim 147, vous le connaissez évidemment tous, il est très connu. Alléluia, ki tov zamera Elohenu, ki neim na'ava Tehila, bone Yerushalayim Hashem, nitre Israël yechanes, he arofel ishvur elev, amechabes, nous dit ici David Ameler, Pashut, Akadosh Baruch Hu, Bone, Yerushalayim. Et je ne vais pas revenir, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est exactement ce qu'on voit, c'est tout le temps en travaux. Yesh Pashut, Binyan, incroyable, il y a une construction constante de Jérusalem, nous réalisons les paroles de Tehilim, c'est extraordinaire. Ad Kedekar, que va continuer la névoie, cette fois dans le livre de Zecharia, mais on est dans la même optique. Lorsque Zecharia, un avis, nous dit la chose suivante, dans le chapitre 2 de Zecharia, regardez ce qu'il nous dit. Ve'esai nai ve'ere, ve'ine ish, ou beyado, chevel mida, va'omar, anna ta'olech, va'omer elai, lamod et Yerushalayim. Le mec, il est avec un mètre, avec un moyen de mesurer. Et il dit, mais où tu vas? Il dit, mais je vais mesurer la taille de Jérusalem. Lirot kama rechava ve kama orka. Veine, hamalach adover bi yotze. Umalach acher yotze likrato. Vayomer elav, rutz, daber el anar alaz. Lemor. Tu peux plus compter. Il n'y a plus de limite à Jérusalem. Prazot, teshev Yerushalayim. Mirov adam ou behema ou vetocha. Vani eyela neum Hashem. Chomat esh saviv ou le chavod eye betocha. Zecharia, un avis nous dit quelque chose qui sait, mais encore une fois, on a tellement pris l'habitude de vivre dans l'époque de la réalisation de la prophétie qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, c'est ça. Rappelez-vous le 19e siècle. Au 19e siècle, les gens ont peur de sortir des murailles de Jérusalem. Mais aujourd'hui, on a peur d'y rentrer dans les murailles. Tout le monde est dehors. Prazot. Mazé Prazot, c'est-à-dire là où il n'y a plus de murailles. On ne peut pas compter la limite de Jérusalem. On ne sait pas où ça va. Il est dans quelques semaines, c'est Pourim. Et il y aura toujours le même débat. Ramoth, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. Comment ça s'appelle? Shaharagai, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. Betzaït, c'est Jérusalem, c'est pas Jérusalem. Jusqu'où ça va, Jérusalem? On n'arrive pas à te dire. Quelque part, tu peux dire que jusqu'à Maladoumim, c'est Jérusalem. Mazé, Prazot, Yeshev, Yerushalayim. Tu peux pas compter tellement il y a de gens. Mais c'est pas Choukacha. Je sais pas si dans vos maisons respectives, on a fait un Tama 38B, c'est-à-dire un pinouille-binouille. Mais ce qui est en train d'arriver partout dans les Shrounot à Jérusalem, c'est à cause de ça. C'est à cause de Prazot, Techev, Yerushalayim, Mirov Adam. Eh oui, il y a tellement de gens qu'on ne sait plus où les mettre, donc on construit des tours plus hautes. Mais les amis, si ça, ce n'est pas de la réalisation, eh bien, je ne sais pas ce que c'est qu'une réalisation de prophétie. Pas shoot. Et évidemment, on va arriver à ce verset incroyable, ce verset qui est tellement beau. Oh, bah, voilà, oh, bah, deux secondes. Ce verset qui est tellement magnifique dans Zecharia au chapitre 8, nous dit Zecharia Navi, verset Vav. Ko amar Hashem Tzevaot, ki pale beine she'erit ha'am haze, bayamim ahem, gam beinai, yipale neum Hashem Tzevaot. Ko amar, tout le monde va voir et va être sous le choc, incroyable, subjugué. כי כה אמר השם צבאות, הנני מושיע את תמי מארץ מזרח ומארץ מבוא השמש, ואז מה? והבאתי אותם ושכנו בתוך ירושלים, והיה לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים באמת ובצדקה. רבותיי, זה de cela qu'on est en train de parler. C'est tout simplement toute cette réalité qu'on est en train de réaliser. Ce n'est pas...
Tu n'as pas pitié des gens qui ne parlent pas
hébreu. Ah, ben alors, c'est maintenant que vous me dites. Il faut me le dire avant, ça. Alors, très bien que vous me l'ayez dit maintenant. Très bien. Je reprends. Il faut que je revienne depuis le début ou on se concentre sur celui-là. Mais c'est très bien que vous me l'ayez dit. Bezrat Hashem, j'oublierai plus de traduire. Mais dites-vous que votre Neshama, elle a compris, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Alors, le verset nous dit, ainsi parle l'Éternel, ceux qui vont voir des rescapés du peuple juif de l'exil, qui vont voir ce dont je parle maintenant, ils vont être émerveillés et ils n'en croiront pas leurs yeux. Mais qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, ils vont voir que je ramène mon peuple et que je les fais s'installer à l'intérieur de Jérusalem. Plus que toute autre prophétie, celle qui a été la plus incroyable, parce que c'est celle qui était la plus demandée, c'est le retour du peuplement de Jérusalem par le peuple juif. Et je me souviendrai toujours des larmes terribles, d'une joie très profonde, de ma grand-mère, lorsque je lui ai envoyé. Non, pas quand je lui ai envoyé, je ne lui ai pas envoyé, je lui ai justement. C'est une fois où j'ai pu revenir en France, juste après que ce soit arrivé, que je lui ai donné dans la main la Teudat Leda, le certificat de naissance de ma première fille, de mon premier enfant, où il y avait marqué Mazal Tov, le Mishpacha Tfizon, votre fille est née à Jérusalem. J'ai reçu comme ça une Teuda, comme ça, fantastique. Ma fille est née à Jérusalem. Bon, depuis j'en ai reçu quatre, mais. Et j'ai montré ça à ma grand-mère. Mais quelles larmes. Elle m'a dit, si seulement ton autre grand-mère, elle était là. Mon autre grand-mère, mamie Sabine, qui avait survécu à Auschwitz, me dit, si ta grand-mère, elle avait pu voir ça aussi. Elle, avec son numéro sur le bras, moi qui ai dû fuir de maquis en maquis et de forêt en forêt et de cachette en cachette pour ne pas me faire attraper par les nazis. Mon arrière-petite-fille est née à Jérusalem. Mais c'est quelque chose qui pour moi paraissait tellement normal que ma fille naisse à Jérusalem. Je ne me rendais pas compte, alors que ma grand-mère était véritablement, elle portait en elle le verset. Elle était She'erit Ahamazé, elle était les rescapés de ce peuple, mamash, dans tous les sens du terme. Pas seulement rescapés de l'exil de 2000 ans, mais mamash rescapés de la Shoah. Mamash kacha. Et elle dit, je n'en revenais pas. Comment aurais-je pu, une seule seconde, quand il y avait, ma grand-mère disait, je suis né lorsque le Führer est monté au pouvoir. Ma grand-mère est née en 1933. Elle m'a dit, comment est-ce qu'on aurait pu seulement entre-imaginer que le peuple juif allait avoir une terre, que le peuple juif allait avoir un pays, et que, elle m'a dit, que moi, mes petits-enfants habiteraient là-bas et que mes arrière-petits-enfants naîtraient à Jérusalem. Elle dit, moi, je suis né en Pologne. Et ça, c'est absolument incroyable. Et nous sommes la réalisation, tout simplement, eh bien, de cette prophétie incroyable. Alors, c'est bien, tu as raison de...
Oui, Raph Fison, une question. Donc, le cours, c'est la réalisation des prophéties à propos de la construction du pays.
Oui.
Est-ce que dans ce domaine de la construction du pays, est-ce qu'il y a encore des données, des prophéties qui n'ont pas été réalisées?
Ah ben, évidemment. Évidemment. Et je vais t'en donner une en avant. Mais là, on ne fait pas le cours de ce qui n'a pas été réalisé, parce que sinon, ça serait un autre thème. Quelles sont les prophéties qu'on n'a pas réalisées? Mais il y en a qu'on a, on n'a pas encore fini le boulot. Mais si tu parles de construction du pays qu'on n'a pas encore fait, je pourrais te citer, oui, il y a un petit bâtiment à Jérusalem, justement, qu'on n'a pas encore construit. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais effectivement, le Beth Amikdash, on ne l'a pas encore reconstruit. Et il y a également d'autres endroits en Israël qu'on n'a pas encore reconstruits. Donc, il y a encore des endroits à reconstruire. Il y a des villes dans lesquelles nous étions installés et que nous n'avons pas encore réussi à nous y réinstaller. Par exemple, je pense à une ville qui était une ville juive par excellence, avec une synagogue magnifique et une mosaïque magnifique dans la synagogue qu'on peut voir aujourd'hui sur la Kvish Mispar Echad, sur la route numéro 1, quand on s'arrête au musée du Shomroni à Tov, le musée du bon samaritain, qui est un musée purement chrétien, qui raconte une histoire purement chrétienne, mais qui, dans l'intérieur du musée, a également une salle avec énormément de mosaïques de vieilles synagogues qui ont été récupérées. Et bien là-bas, on peut y voir la mosaïque de la synagogue de Otza, la synagogue de Gaza. Et oui, Gaza est une ville juive du territoire de Judée, du territoire de la tribu de Yehuda. Donc, par exemple, Gaza, on n'a pas encore reconstruit Gaza et on n'en a pas fait une ville, Letiferet Medinat Israël. Bezrat Hashem Inch'Allah, ça viendra. Ça a l'air. Donc oui, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore réussi à reconstruire. Mais on ne peut pas nous voiler la face sur ce qu'on a déjà accompli, qui est absolument incroyable. Donc je reviens... Ah, voilà, tac. Donc, je reviens à notre histoire. Hop là, voilà. Et le prophète Malachi, au troisième chapitre de Malachi, le dernier chapitre de Malachi, d'ailleurs, Malachi, c'est le dernier des prophètes. C'est le dernier des prophètes, et le troisième chapitre, c'est son dernier chapitre. Donc, on est mamache, à la toute fin de la prophétie. Il nous dit Malachi, un avis. וגערתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשקל לכם הגפן בשדה אמר השם צבאות וישרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר השם צבאות. En d'autres termes, nous dit Malachi que non seulement nous on va réussir à se réimplanter ici, mais que voyant notre réussite, les goyim, eh bien eux aussi vont décider en tant qu'entité nationale de s'implanter également ici. Et quand on parle de la résurrection de Jérusalem, la reconstruction de Jérusalem, eh bien évidemment, on ne peut pas faire abstraction de l'ambassade américaine qui est arrivée à Jérusalem en 2018. Donc évidemment, ça fait écho à ce que nous dit ici Malachi, « Veisheru etrem kol agoyim » et les nations voudront s'attacher à vous, « Ki tiyu atem eretz refet » vous serez une terre de référence, Amar Hashem Tsevaot. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement de construire Jérusalem ou est-ce qu'il y a également des constructions dans le reste du pays? Eh bien, les amis, pour ce qui est des constructions dans le reste du pays, je vois que on va pas forcément avoir... Si, on a quand même le temps un petit peu de besader. Donc, il y a encore des constructions, pas seulement à Jérusalem. Eh oui, il y a d'autres paysages que les prophètes nous disent qu'on va également repeupler et reconstruire. Ainsi, le prophète Jérémie, dans le chapitre 31, nous dit la chose suivante. « Ko amar Hashem, matzachen bamidbar, am seride charev » Nous sommes les rescapés de l'épée. « Alors l'argio, Israël, je viens vous calmer, Israël. « Merachok Hashem nireli, ve'avat olam avtich, Alken Meshartir Hased. Ne vous inquiétez pas, je garderai avec vous un fil de bonté. Od Evner Venivnet, Betulat Israël. Tu viendras un jour où tu seras reconstruite, Israël. Od Taadi Tupaich, Veyatzat Bemchol Mesachakim. Viendra un temps où tu continueras et tu redeviendras heureuse et en train de jouer. Tu reconstruiras et tu replanteras des vignes dans la Samarie, dans le Shomron. Nous dit le prophète Jérémie, nous allons également reconstruire eh bien, la Samarie, le Shomron. C'est intéressant parce qu'à l'époque de Yirmiyahu Hanavi, il n'y a déjà plus de Mamlechet Shomron. Le territoire de la Samarie a été détruit par les Assyriens, par Sanhérib, 200 ans avant Jérémie. Et il nous parle déjà de cette névoie où on va reconstruire la Samarie. Comme Arachem Sevaot, Eloé Israël, Od Yomeru et Adavar Azé, Beeret Yehuda ou Be'arav. Ah, c'est pas que Beeret Shomron, c'est également Beeret Yehuda. Yehuda, c'est-à-dire la région de Hebron, la région de Bethléem, et ainsi de suite. Pas seulement Jérusalem. Beshuvi et Chevutam, voilà ce qu'on dira lorsqu'on reviendra. Yevarech Echa Hashem Nevet Tzedek Har HaKodesh. Har HaKodesh, Zehar Hebron, Har Yehuda. Veyashevu Ba Yehuda Vechol Arav Yachdav. Ikarim Venasu Ba'eder. Ki Irveti Nefesh Ayefa Vechol Nefesh Da'ava Mileti. Dieu nous dit, eh bien, non seulement je vais vous ramener dans les terres de Judée, mais vous allez en devenir un grand troupeau de la terre de Judée. En d'autres termes, ça ne sera pas un petit endroit, mais Yehuda Veshomron, la Judée Samarie, eh bien, seront des endroits extrêmement peuplés. Aujourd'hui, près d'un demi-million de Juifs habitent en Judée Samarie. Hop là. Voilà. Et ainsi, nous dit le prophète Jérémie, on terminera par là, cette fois au chapitre 33, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, au chapitre 33, au verset 10, nous dit Jérémie, Kom Arachem, ainsi parle Dieu, Od Yishama Bamakom Azé, Asher Atem Omrim, on entendra encore dans cet endroit-là, il parle de Jérusalem. חרב ומעין אדם ומעין בהמה בערי יהודה ובחוצות ירושלים. הנשמות מעין אדם ומעין יושב ומעין בהמה. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. Et oui, on connaît évidemment ce verset. D'ailleurs, ce verset, vous remarquerez qu'il a été tronqué dans les chansons. Et là, je m'inscris en faux. Hein, dans tous les compositeurs de chansons de mariage, on a coupé, on a censuré Jérémie. C'est quand même pas mal. Fallait le faire. Parce que le verset en entier, c'est Kohamar Hashem, Odishama. Et toi, tu connais la chanson. Tu dis Odishama Be'are Yehuda, Uvechutzot Yerushalayim, Kol Sason Vekol Simcha, Kol Khatan Vekol Khala. Bon, d'accord, mais ça, c'est pas le verset. Le verset, il dit Kohamar Hashem, Odishama Bamakom Aze, Asher Atem Umrim, Charev Umen Adam Umen Behema. C'est-à-dire que le verset, il dit, on va encore entendre dans ces endroits où on a entendu l'épée frapper l'homme et l'animal, dans les villes de Judée et dans les cours de Jérusalem, Hanneshamot, Me'en Adam, qui sont maintenant vides de tout homme, Me'en Yoshev ou Me'en Behema, il n'y a plus personne qui habite. On entendra encore là-bas, Kol Sason Vekol Simcha, Kol Chatan Vekol Kala, Kol Omrim, Od Bet Hashem Tsevaot, Kitov Hashem, Kileolam Chasdo. Bon. En vrai, Mevim, Toda, Bet Hashem, ça ne serait pas rentré dans la musique. Hein, Malasot, je pense que les gens qui ont fait les chansons, ils ont bien compris que si on mettait tous les versets, eh bien, ça ne rentrerait pas dans la musique. Et donc, ça ferait des chansons interminables, que personne n'allait se rappeler des paroles. Donc, c'était très important qu'on coupe un petit peu Jérémie, il ne nous en voudra pas. C'est pour le bien des mariés. Pour elle et pour beaucoup de Juifs, tout Israël est Jérusalem. C'est qui pour elle ? C'est qui pour elle? J'ai pas compris qui est pour elle. Quelqu'un qui a dit dans le chat, pour elle et pour beaucoup de juifs, tout Israël et Jérusalem. De qui on parle? Attends, il y a une autre question.
Pour voir ce qui est écrit au-dessus.
Ah, excusez-moi, attendez, j'y viens. Mes enfants sont nés à Naharia et la mairie plantait un arbre pour chaque enfant qui naissait. Et ma mère a été super émue en voyant le certificat du KKL, non seulement des petits-enfants en Israël, mais aussi des arbres. Ah, il a fait. Nachon, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un minag qui est aussi pour mes enfants, mais aux enfants aussi, on leur a planté un arbre dans Yar Yerushalayim, c'est Nachon. C'est un minag d'ailleurs qui est très ancien. C'est un minag qu'on retrouve déjà dans le Talmud, que lorsque naissaient les enfants, on plantait un arbre. Et on savait où on avait planté l'arbre de notre fils. Lorsque notre fils se mariait, donc disons, je sais pas moi, 20 ans plus tard, eh bien, l'arbre avait poussé. Il se mariait avec une jeune fille. La jeune fille, on lui avait planté aussi un arbre et l'arbre avait poussé. Eh bien, cet arbre, on coupait des branches et de ces branches, de ces deux arbres, on formait la choupa pour ces deux enfants. Donc, c'était vraiment minag chashuv meod et qui rassemble tout bishvat avec tout béav, le jour où, eh bien, la fête des amoureux d'après le judaïsme, c'est-à-dire le moment où Am Israël a pu se marier les uns avec les autres, et Tu Bishvat, la fête des arbres, machin, tout est relié finalement, puisque et Tu Béav et Tu Bishvat sont 40 jours avant la création de l'homme. Et oui, je vous rappelle que l'homme a été créé, enfin le monde, c'est-à-dire, a été créé soit le 25 Elul, soit le 25 Adar. Ça dépend si on se place du point de vue de Rabbi Eliezer ou du point de vue de Rabbi Yehoshua. Si Rabbi Yehoshua dit que l'homme a été créé en Nissan, le monde a été créé le 25 Adar. Si on se place du point de vue de Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé à Rosh Hashanah, que l'homme a été créé à Rosh Hashanah, donc le premier Tishrei, alors le monde a été créé le 25 Elul. À ce moment-là, eh bien, nous dit le Talmud que 40 jours avant la création de l'être, eh bien, une voix sort des cieux pour dire « Celle-là, c'est pour celui-là ». Donc, là, on parle de la création du monde. Naron, on parle de la création du monde. Donc, c'est qui la Kala du monde que Dieu a créé? C'est Am Israël. Et donc, c'est quand 40 jours avant la création du monde? Eh bien, c'est soit Tu Bishvat, si tu dis que c'est en Nissan, soit Tu Be'av, si tu dis que c'est en Tishrei. Eh bien, voilà que le minag du peuple juif a réuni entre la vie de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et lorsque se mariaient un jeune garçon, une jeune fille d'Israël, eh bien, on coupait les branches des arbres qui avaient été plantés pour eux pour en faire leur choupa et les faire rentrer dans la famille d'Israël. Et c'est un minag qui s'est un peu perdu parce qu'aujourd'hui, nos choupotes, évidemment, ne sont plus construites avec les branches des arbres qui ont été plantées pour nos enfants. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour, on y reviendra. Et amen, Kenny Ratson. Voilà, c'était... La névoie qui se réalise, la construction du pays. À bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures.
Toda Rabba, merci beaucoup, Rafizon. Le moment des questions, chers amis. Ouvrez vos micros.
Alors, c'est parti.
Toda Rabba. Très beau, magnifique. Je voudrais qu'on reprenne la tradition des arbres, de planter un arbre, pas confort.
Mais la tradition, elle ne s'est pas arrêtée. Hein. Il y a plein de mairies qui le font.
Et pourquoi Jérusalem, je n'en ai pas entendu parler pour la naissance de mes petits-enfants?
Alors, peut-être qu'ils l'ont fait sans le dire ou peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Ça dépend, en vrai, ça dépend de qui est à la mairie à ce moment-là. Mais j'ai envie de vous dire que rien ne vous empêche d'aller le faire tout seul. Hein.
D'aller
le faire tout seul, comme une grande.
Oui.
Oui, il y a une question.
J'ai une question.
Oui.
Tout à l'heure, on a demandé quels sont les spécifiques qui ne sont pas encore réalisés. Et ça m'a fait penser à une autre question. Pourquoi certains religieux pensent que c'est Dieu lui-même qui on devait attendre d'Akadosh Baruch Hu? Afilou, l'Eretz Israël, je ne sais pas, il y en a qui nient l'État d'Israël, je crois, à cause de ça, mais je ne connais pas, je n'ai jamais pu parler de ça avec eux. Donc, Les prophéties qui restent à réaliser, est-ce que c'est justement cette partie peut-être qui sera donnée par un Kadosh Baruch Hu?
Alors,
qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais vous répondre. Il y a deux choses différentes. Dans ce que vous dites, il y a deux choses différentes. Il y a pourquoi certains juifs pensent qu'on n'a pas le droit de créer l'État d'Israël et il faut attendre que Dieu il nous donne tout sur un plateau.
Nous-mêmes.
Voilà. Il ne faut pas que nous, on le fasse, mais que ça vienne de Dieu directement. Et une autre question, c'est est-ce que les autres parties de la terre d'Israël qu'on n'a pas encore conquis, qu'on n'a pas encore développé, est-ce que lorsqu'on va les développer, alors tout le monde sera d'accord? La première chose que vous dites, c'est dû à une raison très importante, et je suis désolé de le dire de manière aussi crue, mais ça s'appelle de l'ignorance. Je vous explique. Les gens dont on parle sont des gens qui sont des grands rabbins, qui ont étudié la Torah, beaucoup. Ils se basent sur un point. Dans le traité de Ketubot, dans le Talmud, il y a une histoire qui met en place, à la page 110 et 111 du traité de Ketubot, qui met en place ce qu'on appelle les trois serments. C'est quoi les trois serments? C'est que Dieu a fait prêter serment au peuple juif et aux nations du monde trois choses pour que l'exil puisse exister. Ces trois serments sont tirés de Shir HaShirim. Dans le livre de Shir HaShirim, trois fois, nous retrouvons le verset « Ishbati etrem benot Yerushalayim shelo teoreru et ha'ava ad sheterpatz » qui veut dire « Je vous ai fait prêter serment, fille de Jérusalem, de ne pas éveiller l'amour avant qu'il ne se réveille lui-même. » Ces trois serments sont mentionnés dans le Talmud en disant, premièrement, on n'a pas le droit de se révolter contre les nations. Deuxièmement, on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en masse, en force. Et troisièmement, les goïms n'ont pas le droit de nous asservir trop, de nous persécuter trop. Donc deux pour nous, un pour eux. Maintenant, suite à cela, eh bien, le rabbi de Sotmar, puisque c'est lui le grand, celui qui est le grand porteur-drapeau de cette tendance-là, eh bien, dit que le sionisme, c'est violer les serments, puisque nous nous révoltons contre Dieu en nous révoltant contre les nations et en voulant conquérir la terre d'Israël en force de la main des nations. À ceci vient répondre d'abord tous les décisionnaires de la Halakha depuis le Talmud jusqu'à nos jours, que cette histoire des trois serments n'est pas une histoire qui a été nifsak la Halakha, mais qui est une agada. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision halakhique qu'on n'a pas le droit de se révolter ou quoi que ce soit, mais c'est juste que ça veut nous enseigner que quand ce n'est pas le moment de revenir en Israël, ça ne marchera pas. Ceci étant dit, dans tous les cas, arrive un des grands maîtres du judaïsme, justement, pour expliquer que le rabbi de Sotmar a tort, c'était Rabbi Meir Simcha HaKohen de Dvinsk, qui est un contemporain du rabbi de Sotmar, et qui vient dire, en 1917, lorsqu'il entend la déclaration Balfour, il dit « Oh, otazoy, zosis dos, zeou !» Ça y est, la peur des serments est tombée, puisque les nations nous ont permis de revenir à Jérusalem. La déclaration Balfour, c'est la permission des nations de reconstruire notre pays en Israël. Donc, même si tu dis que les serments ils sont alpés à la race, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ça y est, il n'y a plus de problème, puisque les nations nous ont permis. Et donc, eh bien, ce sont des gens qui se voilent les yeux, la face et tout ce que tu veux. D'un autre côté, il y a aussi, j'ai dit, une grande notion d'ignorance, parce que, et je préfère prendre des pincettes en disant cela, mais parce que dans le monde ashkénaze, et non dans le monde séfarade, il n'y a pas ce problème-là, il n'y avait aucun rabbin séfarade qui était opposé au sionisme. Aucun. Les seuls rabbins séfarades qui se sont opposés au sionisme, c'est récemment, et ce sont des rabbins séfarades qui ont été formés chez des ashkenazim, dans les yeshivot ashkenaz, qui s'habillent comme des ashkenazim, qui parlent comme des ashkenazim. Les séfaradim ne se sont jamais opposés au sionisme. Pourquoi? Eh bien parce que dans le monde séfarade, on n'a jamais arrêté d'étudier le Tanakh, la Bible, les prophéties, alors que dans le monde ashkénaze, on a arrêté d'étudier le Tanakh. Résultat des courses, eh bien, on ne connaissait plus les prophéties. Et donc, quand tu connais pas la prophétie, eh bien, tu n'arrives pas à voir quand elle se réalise sous tes yeux. Ok ? Voilà.
On peut pas dire aussi que les goïms, ils nous ont, oui, trop persécutés.
Ah si, si, la Shoah, c'est... La Shoah, c'est trop. La Shoah, c'est trop, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que non seulement il y a eu la déclaration Balfour, et en plus de ça, les goïms aussi, ils n'ont pas respecté leur part du marché. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, tu peux faire ton alia, c'est bon.
Ben, c'est un... Daniel, déjà, t'es la ville, elle n'a pas besoin de faire sa alia, tu dis
ça bien. C'est pas ça bien.
Autre question. Eh ben, Chazak ou Baruch.
Top.
Toda Rabba.
Chazak ou Baruch, et Ressob les Koulam.
Toda Rabba.
Tu dis salut.
Ouais. Va l'habiller, elle va avoir froid.
Ouais, ouais.